Improvisation is just something natural you do.
Improbox.
Improbox.
Improvising is living.
Le B.A.B.A. d'Ibé. Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Bonsoir tout le monde. Quel bonheur de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 9 juin. Il est 19h09. Et vous êtes dans Improbox Radio sur TSF Jazz. Et nous sommes en direct. Improbox, c'est une émission qui, chaque mois depuis le début de cette année, crée une rencontre musicale inopinée entre des artistes du monde du jazz et des personnalités dont le domaine d'excellence n'a strictement rien à voir avec la musique, ce qui ne les empêche absolument pas d'être de véritables virtuoses. Ce soir, pour la dernière de l'année, c'est le summum, le climax de mon année radiophonique, et je suis très très fier et tout ému de recevoir deux véritables stars. Alors, je vais laisser un peu de suspense avant de vous présenter la star du plateau, mon invité plateau. Et pour patienter, et puis parce que c'est aussi ma star musique ce soir, notre invité musique, elle va ouvrir fabuleusement notre émission en live, en direct, l'une des plus fantastiques artistes de la scène jazz franco-américaine, une véritable crooneuse qui nous interprète tout de suite Head High, une composition de son dernier album Alterations, un album très girl power, me dit-on, en hommage à notre invité du jour, accompagné par Hugo Lippi à la guitare, guitariste français incontournable. C'est l'émotion, hein, si vous sentez, c'est la dernière, qui a, entre autres, Hugo Lippi collaboré avec le cinéaste David Lynch, mais aussi avec Sarah McKenzie, Eric Lénini ou encore Samy Thiebaud. Voici Madame Robin McKell, c'est en direct, c'est sur TSF Jazz, Head High.
Did it
keeps on bringing each passing tone. There is freedom night and day. Oh, lyric and song that lift up the mind, body and soul. Open your eyes, hold your head high, lift up your mind, body and soul.
Et si vous vous laissiez guider par l'inspiration du moment?
Ah, head
Introbox,
high.
Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Magnifique head high, Robin McKell avec Hugo Lippi à la guitare. Merci beaucoup pour ce magnifique extrait de votre dernier album. Alors oui, ce soir sur plateau Improbox, j'ai l'immense privilège de recevoir une autre véritable virtuose, l'une de ces stars discrètes. Alors, de celles qu'on n'applaudit pas assez, je trouve, qu'on devrait ovationner chaque jour lorsqu'elles sortent de chez elles. Une femme qui devrait signer des autographes dans la rue. On devrait voir des tentes installées en bas de chez elle chaque jour pour attendre qu'elle traverse la rue, qu'on puisse voir, la voir en vrai. On devrait s'arracher des casquettes, des gobelets, des posters à son effigie, faire des festivals, reverser les fonds à toutes ces associations et ces structures qu'elle crée ou pour lesquelles elle s'engage corps et âme. Il y a, en effet, on le sait, des personnes qui œuvrent ainsi discrètement à l'équilibre de nos sociétés, loin des caméras et des micros. Bon, ce soir, j'avais envie de lui tendre un micro. Parmi eux, il y a ce groupe discret aussi indispensable qu'on appelle étrangement le corps médical. Né au Liban, qu'elle quitte à 18 ans, en 77, au tout début de la guerre civile, pour étudier à Necker enfant malade. Très rapidement, elle gravit les échelons et se voit à la fin des années 80 confier le poste de chef de clinique en gynécologie obstétrique à l'hôpital Saint-Vincent de Paul à Paris, puis de la maternité des Bleuets à l'hôpital militaire Béguin. Elle devient plus tard chef de service à la maternité à l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis où elle fonde la fameuse Maison des Femmes. Toute première structure en France à offrir une prise en charge globale des femmes victimes de violences et d'excisions. Elle se forme alors à la reconstruction et à la réparation des mutilations sexuelles, s'intéresse au lien entre ce type de pratique et la précarité. Par ailleurs, et entre autres, présidente du cercle des études, d'études des gynécologues obstétriciens de la région Île-de-France, elle est gratifiée en 2015 de la Légion d'honneur. Son dévouement à la cause des femmes est un extraordinaire exemple à suivre. Et, cher invité, certains vous voient en vous une sorte de nouvelle héritière de la regrettée Simone Veil. Et votre engagement vous vaut d'ailleurs d'être récompensé par le prix Simone Veil des trophées Elle de France 2018 pour la région Île-de-France. Cher Rada Hatem Ganzer, bienvenue à vous. Vous n'êtes pas un personnage public. Alors, dans cette première partie de l'émission, bon, vous sentez mon émotion. Dans cette première partie, j'avais envie qu'on en sache un tout petit peu plus sur vous. Vous êtes quelqu'un d'assez discret. Dites-nous un peu pour commencer, comment vous est venue cette vocation? Comment est née chez vous cette vocation?
Tout d'abord, merci pour cette sublime introduction. Ibrahim, je vous embauche immédiatement. J'ai besoin d'un chargé de com.
Attaché de presse.
Alors, la vocation de médecin? Oh, c'est l'enfance, c'est la guerre, c'est les modèles, c'est un désir d'autonomie. Et c'est aussi toujours, parce que ça, c'est tous les soignants partagent ça, l'envie de faire un métier qui a du sens et pour lequel on sait pourquoi on se lève le matin.
Vous avez parlé de l'enfance, de la guerre. Est-ce que c'est la souffrance des autres qui donne envie de se dire, tiens, je vais participer à soigner tout ça? Ou est-ce que ça vient... Je me pose la question de savoir comment peut venir cette vocation.
Il y a la souffrance des autres. Il y a aussi le sentiment très précoce, quand on vit dans des pays aussi agités, de l'impermanence de la vie, du fait que nous ne sommes rien. Et que ça va très très vite. Quand on a perdu des copains, de la famille, en quelques secondes, un obus, une balle perdue, ça vous remet les pieds sur terre.
Le rapport avec le temps peut-être aussi?
Oui.
Le temps
qui nous est compté.
L'urgence?
Eh bien, le fait de comprendre très jeune que le temps nous est compté, oui, ça vous met dans un sentiment d'urgence. C'est-à-dire, vous dites, j'ai un temps, d'ailleurs j'ignore absolument la durée de ce temps, et il faut que je fasse le maximum de choses intéressantes et utiles pendant ce temps.
Est-ce que c'est cette peur de ne pas avoir le temps de faire tout qui vous pousse à être autant créative dans les démarches que vous faites? Cette maison des femmes, on va en parler. Comment elle est née, cette idée? Comment vous avez pu... C'est pareil, c'est cette urgence de créer quelque chose pour ces femmes qui n'étaient pas prises en compte à la hauteur du drame que ça représente ?
C'est pas seulement l'urgence, c'est aussi le fait de, quand on a commencé quelque chose auquel on croit, ne pas lâcher en cours de route, parce que c'est tellement facile de se décourager. Le monde actuel, la société n'est pas tellement faite pour vous tendre des cordes, des échelles. Vous devez gravir tout à la force du poignet. Donc effectivement, ça donne un sentiment d'urgence, mais c'était plus pour accomplir et finir ce que j'avais commencé. Je n'aime pas ne pas finir ce que j'ai commencé.
Quand vous dites ce que vous avez commencé, vous parlez de... C'est comment vous voyez les choses ? Qu'est-ce que vous considérez comme étant le début ?
Le fait de s'impliquer dans la santé des femmes, ça vous amène à tellement de choses, puisque une femme égale une famille, égale une mère, égale un homme, un amant, un mari, un père, égale une histoire familiale, puisque les femmes portent leurs histoires familiales et tous leurs traumas transgénérationnels qu'elles viennent déposer en consultation. Donc ça nous ouvre un monde incroyable et petit à petit, on s'intéresse à chacune de ces dimensions. J'ai la chance de faire un métier qui est tellement complexe, tellement complet, que tout est passionnant. On peut faire de la stérilité avec la fécondation in vitro ultra sophistiquée, on peut faire de la chirurgie, on peut faire de la psychologie, on peut mettre des enfants au monde.
C'est ça, vous avez travaillé...
Le champ est infini. Ouais.
Vous avez travaillé dans la gynécologie courante, comme on dit, c'est ça ? C'est-à-dire qu'il y a la contraception, comme vous venez de le dire, des cas de cancer, des problèmes d'infertilité, donc tous ces sujets-là, vous considérez que c'est la suite logique de votre premier pas qui a été d'être médecin, en fait. Quand vous dites finir ce que j'ai commencé, en fait, ce que vous avez commencé, c'est être médecin. Pour vous, c'était le début d'être médecin.
Tout à fait, être médecin. Ensuite, rencontrer la santé des femmes et me dire que c'était un sujet qui me touchait particulièrement, directement, et de m'y plonger. Et puis ensuite, il y a eu, vous avez cité Simone Veil. Moi, je suis arrivée en France peu de temps après sa loi. Et je me suis trouvée embarquée alors que j'y avais pas tellement pensé. Vous savez que je viens du Liban, c'est un pays où l'avortement reste interdit, même si autour de nous tout le monde avorte ou a avorté. Et donc je me suis trouvée aussi prise dans ce côté un peu militant, le droit des femmes à disposer de leur corps, toutes choses auxquelles je n'avais pas forcément pensé adolescente.
Et en ce moment on est en plein dans l'actualité. Et c'est un hasard, moi je voulais vous inviter il y a très 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 longtemps, mais il se trouve que j'imagine que vous êtes au courant, évidemment, que hier, il y a eu... Donc là, l'article premier du très grand projet de la loi bioéthique du gouvernement a été adopté par 81 voix contre 39 hier, dans la soirée, sur la PMA, la procréation médicalement assistée. Sans entrer trop dans les détails, j'imagine qu'on vous pose beaucoup de questions par rapport à ça, enfin, je suppose. Nous, ici, c'est pas l'émission, c'est pas le but, mais je serais curieux de savoir un peu comment... votre positionnement par rapport à ça, évidemment, on peut se douter de votre engagement. Comment vous avez vécu la lecture d'hier ?
On attendait des avancées, donc on les arrache une par une.
Pour vous, c'est une évidence que ça se passe comme ça, en fait. Il n'y avait même pas de débat pour vous.
Il y a eu débat. Longtemps qu'on débat, donc il fallait.
Trop longtemps, peut-être, c'est ça ?
Sans doute, oui, parce que ça demande beaucoup de courage, en fait, d'aller à l'encontre de ce qu'on pense être le choix de la société dans laquelle on vit. Et je pense que les politiques sont toujours extrêmement en retrait. C'est très audacieux. Je pense que, quel que soit le bord politique auquel on appartient, Valéry Giscard d'Estaing a été d'une extrême audace quand il a demandé à Simone Veil de porter cette loi sur l'avortement. La société était à mille lieues d'imaginer que on allait légiférer là-dessus. On était encore dans les hôpitaux à dire à une femme qui avait de la fièvre parce qu'elle avait avorté dans sa cuisine, « Oh ben, vous l'avez bien cherché, madame, tant pis pour vous. » On a fait du chemin depuis.
On a fait beaucoup de chemin. Et bon, je reviens à un sujet plus... On va revenir vers un peu plus de choses liées à la musique, mais je vous parlais de courage. Il faut avoir du courage pour se battre contre pour mener ces combats que vous menez. Est-ce qu'on a le trac quand on est médecin ? Je me pose la question, que ce soit avant des opérations ou lorsqu'on mène ce genre de combat et qu'on doit avoir une parole, est-ce que vous avez le trac lorsque vous êtes militante ou lorsque vous êtes médecin ? Est-ce qu'on a, où se situe la notion de peur et de trac quand on est médecin ?
Alors on a plein d'occasions d'avoir le trac, pas tellement quand on est militant parce que bon, on peut toujours se faire descendre par un militant anti-avortement comme aux États-Unis, mais
les tweets.
Mais non, c'est pas ça qui nous fait peur. On peut avoir le trac avant un accouchement compliqué, parce que c'est le seul métier où on a 3 secondes pour être efficace. quand un enfant va mal dans le ventre de sa mère, on ne peut pas trop réfléchir. Donc là, oui, ce sont des moments de stress intense et nous, on appelle ça carburer à l'adrénaline. Et c'est pour ça qu'on aime faire des gardes, parce qu'on adore, on a très peur et en même temps, on adore avoir peur parce qu'on se dit, voilà, je vais sauver cet enfant, je vais sauver cette mère, je n'ai pas le droit de me planter. Donc ça, c'est un sacré trac.
Vous voulez dire que, en ce moment, ma femme va accoucher dans quelques heures?
Et je me disais, est-ce que je lui en parle ou est-ce que c'est trop?
Est-ce que selon vous, vaut mieux qu'elle arrive à 8h tranquillement et comme ça, il n'y a pas trop de stress, ou vaut mieux qu'elle arrive vers 4h du matin quand les médecins ou les sages-femmes sont hyper stressés? C'est quoi le
truc? Non, on n'est pas stressé la nuit. La nuit, c'est notre ami. Au contraire, la nuit, il n'y a plus que la salle de naissance qui fonctionne, il n'y a plus que les femmes enceintes et on est très heureux d'être là la nuit. Non, il faut qu'elle arrive quand elle a envie.
Bon, très bien. Alors pour que le bébé arrive tranquillement, on va réécouter un tout petit peu de musique. Je suis très très heureux de vous recevoir, Robin McKell, avec nous et accompagné par Hugo Lippi à la guitare. Nous allons écouter maintenant, juste après ça, Lover Man. Donc Robin McKell, juste après ça.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'Ibé.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Et tout de suite, comme promis, la fabuleuse Robin McKell avec Hugo Lippi à la guitare. C'est Lover Man, un extrait de son deuxième album, Modern Anthem.
I'm feeling so sad. I long to try something I never had. Never had you kissing. Oh, what have been missing? Love a man away. And I'm so alone. I give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love a man, where can you be? I've heard it said the thrill of romance can be like a heavenly dream, and I go to bed with a prayer that you make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet. You'll dry all my tears, then whisper sweet little things in my ears. A hugging and a kissing. Oh, 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 what I've been missing. Love a man, where can you be? Thank you. like a heavenly dream, and I go to bed with a prayer that you'll make love to me. Strange as it seems, someday we'll meet and you'll dry my tears, then whisper sweet little things in my ears. Oh, hugging and kissing, oh, what I've been missing. Love a man, oh, where can you be?
À l'écoute et dans l'instant, Improbox, Ibrahim Mahalouf sur TSF Jazz.
Magnifique, merci beaucoup Robbie McKell d'avoir accepté notre invitation. Merci à Hugo Lippi de vous accompagner. Loverman, issu de ce deuxième album, Modern Anthem, c'est une chance de pouvoir écouter du live comme ça en comité réduit. puis on espère évidemment, j'espère que vous allez pouvoir reprendre la tournée. On l'espère tous de pouvoir reprendre nos tournées très rapidement sans trop de restrictions. Alors, Rada Atem Ganzer, vous savez que dans cette émission, il va y avoir une rencontre musicale entre vous et nos artistes invités sur le plateau musique. Et c'est un moment assez spécial, hein, parce que depuis le début de l'année, au début, on nous disait, mais attendez, c'est bizarre, comment vous voulez faire de la musique avec des gens qui ne sont pas forcément musiciens? Comment ça, de l'impro en direct avec des musiciens, des jazzmen? Mais d'accord, très bien, ils savent improviser, mais quand même, à partir de quoi, etc. Puis finalement, ça s'est fait. Et je sais que tout à l'heure, on va pouvoir créer avec vous. Donc, on vous retrouve tout à l'heure, Robin McKell et Hugo Lippi, pour une séance d'impro avec vous. Donc dans cette émission Improbox, c'est la boîte à impro. Voilà. Donc vous êtes ici, Rada Atem Ganzer. Alors, on a beaucoup parlé tout à l'heure de votre parcours, de savoir pour comprendre un tout petit peu qui vous êtes. Je voudrais maintenant passer à l'aspect plus musical de votre travail. J'ai essayé de creuser un peu pour comprendre. J'ai l'impression qu'il y a deux notions. Vous me dites si je me trompe. Deux notions qui sont importantes dans votre travail. C'est le rythme, parce qu'il y a la notion de respiration qui est très importante. Et puis le silence, parce que je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que le médecin, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Je sais pas, il y a une forme d'introspection dans sa réflexion et qu'il doit délivrer une sorte de réponse à des questions complexes pour lesquelles, d'ailleurs, il n'y a pas toujours de réponse. On sait que la médecine, c'est un art qui n'est pas tout à fait exact, voire parfois très inexact. On s'en est rendu compte quand même pendant cette crise du Covid, où il y a eu quand même beaucoup de questions, de réponses qui n'étaient pas vraiment des vraies réponses, etc. Il y a eu des débats incroyables. Donc le silence parfois est plutôt mieux que n'importe quel jugement ou décision. Je sais pas, je me pose la question du rapport que vous pouvez entretenir, vous personnellement ou en général le corps médical, avec le rythme, et spécifiquement dans votre métier à vous, et avec le silence. Quel est votre rapport avec le rythme pour commencer?
Dans mon métier, on est d'accord.
Dans votre métier.
Vous avez raison, c'est effectivement entre la respiration, enfin il y a plein de moments où le rythme intervient. La respiration des femmes en salle de naissance, le rythme des contractions, on le dit même, on l'appelle comme ça. Est-ce qu'elles sont fréquentes, pas fréquentes? Le rythme de la poussée? Tout ça est en lien avec le tempo. Et puis après, il y a le rythme de nos vies, le rythme de nos consultations. C'est complètement dedans. J'aime beaucoup l'idée de quel lien nous pouvons avoir avec le silence. Et je pense que les moments de silence, notamment dans une consultation, sont des moments extrêmement précieux. Parce que parfois, et notamment quand on est jeune, on a envie de remplir, de répondre, de ne pas laisser de blanc.
Le vide fait peur.
Et le vide fait peur. Et on s'aperçoit que quand on prend le temps, avec un patient, quel qu'il soit, de laisser venir, il n'a pas tout dit, on le sait, il le sait. Et il voit qu'on a le temps, on prend le temps, on laisse le silence s'installer. Et parfois, il y a des petits miracles, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps de silence, brutalement, le patient se met à déverser tout ce qu'il avait retenu. Mmh. Ouais. Et ça, c'est des moments très chouettes, parce qu'on se dit, vraiment, ce silence a été presque salvateur, en tout cas. J'aime beaucoup ces moments de silence.
Je peux imaginer qu'à la maison des femmes, le silence est très important, parce qu'il y a le silence de tout ce qu'elles ne veulent pas dire, ou tout ce qu'elles ne peuvent pas dire. Et votre silence qui est censé provoquer chez elles une forme de elles doivent sentir l'écoute, en fait. C'est cette écoute-là dont vous parlez ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que montrer aux patients qu'on a le temps, qu'on n'est pas là en train de débiter des conseils, des réponses, des explications, et arriver aussi parfois à dire « je ne sais pas, je vais réfléchir, je n'ai pas la réponse », ça déstabilise beaucoup les patients, parce qu'on a longtemps assimilé les médecins à des super sachants.
Des sages qui
savent. Et un médecin qui dit « en fait, je ne sais pas ». Je ne suis pas sûre.
C'est très effrayant, ça.
Oui et non.
Parce que si le médecin ne sait pas, qui va savoir ? Google ?
Eh bien, non, personne. Peut-être qu'il y a, et vous l'avez dit d'ailleurs en introduction, il n'y a parfois pas de réponse. Mmh. Et nous sommes obligés d'accepter cette incertitude sans laquelle il n'y a pas de vie. Donc, oui, le silence et l'incertitude.
J'y pense là comme ça, mais est-ce que vous pensez que, quelque part, cette... J'espère que vous le prendrez pas mal, mais quelque part, il y a une forme de dévalorisation presque du médecin, ne serait-ce que même sa place dans la société. Il y a une sorte, je trouve en tout cas, de... À une époque, le médecin, c'était un...
Je sais pas, oui, Molière, autant de Molière, oui.
Oui, peut-être, ou même un peu plus tard, mais le médecin... Non, mais même, par exemple, regardez, nous sommes d'origine libanaise. Au Liban, le médecin, c'est quand même un personnage extrêmement respecté, oui. Etc. Alors qu'aujourd'hui, on peut...
Avec l'ingénieur et l'avocat.
Avec l'ingénieur
nous avons trois métiers au Liban, pas plus.
Pas plus. Oh, maintenant, le businessman, un peu. Mais la parole du médecin, c'est une parole extrêmement respectée. J'ai l'impression qu'ici, en tout cas dans nos sociétés occidentales, on a un peu mis la parole du médecin un peu de côté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai cette impression-là en tout cas. Est-ce que vous pensez que ça va de pair avec les nouvelles technologies où tout le monde a accès à une forme de médecine, comme une sorte de médecine secondaire, de seconde zone, qui est celle de celui qui va sur Internet pendant 5 heures pour se renseigner, pour savoir ce qu'il a, ses pathologies, les traitements possibles, etc. Et qui met de côté et qui va peut-être contredire le médecin en lui disant « non, mais je ne suis pas d'accord avec vous » ou « non, ce n'est pas ça qui m'arrive, c'est ça ».
Ça nous a obligés en tout cas à nous remettre en cause et à accepter l'expertise du patient. Parfois les patients savent mieux que nous ce qu'ils ressentent, ils savent toujours mieux que nous ce qu'ils ressentent, mais ils sont encore plus capables de l'analyser. Donc on a appris aussi à les écouter, à leur faire confiance et à reconnaître leur expertise. Moi je ne vis pas ça comme une dévalorisation, parce que quand on a un lien intéressant avec ces patients, même s'ils ont tout lu sur Internet, à la fin ils vous disent... Et vous, docteur, vous feriez quoi ?
Au final,
c'est ça.
Quand même.
Et en fait, on se dit, bon, ben voilà, digérer plein d'informations, mais qu'est-ce qu'on en fait à la fin ? Il faut que quelqu'un vous fasse le tri.
Donc en fait, si vous voulez
et
dire...
On est là.
Ouais, c'est que d'abord, c'était une sorte de concerto solo. Maintenant, c'est devenu un duo. Vous travaillez en collaboration avec...
Absolument. En collaboration, mais de temps en temps, on est obligé de ne plus être en démocratie et de décider. C'est quand c'est extrêmement urgent, quand c'est extrêmement grave, et parfois quand le patient prend des mauvaises décisions. Alors aujourd'hui, on est très respectueux du choix des patients. Il a le droit de décider de ne pas continuer ses soins ou de ne pas écouter ce que vous lui dites, bien sûr. Mais de temps en temps, quand on est absolument convaincu que sa vie est en danger, on redevient soliste.
On sait qu'il y a beaucoup de souffrances, de maladies, de souffrances silencieuses. L'inceste, les violences conjugales, les violences silencieuses parce qu'on ne le dit pas, les excisions, etc.
Non, parce qu'on n'écoute pas, parce qu'on n'entend pas, c'est pas parce qu'on ne dit pas. En fait, c'est
on
parce qu'on est
pas.
Sourd.
Et vous, à la Maison des Femmes, vous avez des spécialistes qui sont formés à ces situations et ils consultent sur place, dont plusieurs chirurgiens spécialisés dans la reconstruction du clitoris qui effectuent des permanences. Donc, c'est-à-dire que vous avez créé une sorte d'institut de réparation de la femme, à tout point de vue psychologique, physique, c'est ça ou pas ?
C'est un peu l'ambition. C'est cette maison, elle a pour vocation d'accompagner les femmes vers leur autonomie. Donc il faut prendre en charge leur traumatisme, il faut accompagner leur désir d'émancipation, il faut accompagner parfois le fait qu'elles savent même pas ce qu'elles veulent et qu'elles vont mélanger la violence de leur mari avec l'idée qu'il est en fait très amoureux mais très jaloux et qu'il faut qu'on leur explique ce qu'elles vivent. Elles n'en sont pas tout à fait conscientes parfois. Et bien sûr, notre plus grande victoire, c'est quand une femme fait ce chemin de comprendre ce qui lui arrive, de choisir ce qu'elle veut, et parfois, avec notre aide, de se relever et de s'envoler.
Est-ce que lors de vos consultations, vous mettez de la musique ?
Non, ça c'est... On met de la musique quand on opère, mais pas quand on consulte.
Quand on opère.
Ben oui, parce que quand on consulte, ça serait nier la parole du patient. On en met quand on opère, surtout quand on opère par exemple sous anesthésie locale, ça permet aussi aux patients de s'évader pendant que nous on travaille.
Quel type de musique ? Plutôt classique, non ?
Moi plutôt classique, oui. Quand les patients dorment, on peut mettre de l'opéra.
Vous y croyez à la musicothérapie ?
Oui.
Comment ?
Je pense que la musique a énormément de vertus, notamment d'apaisement, de souffle, de respiration. Je ne suis pas du tout musicothérapeute, mais je pense que quand on sait accompagner les patients dans ce travail, il y a un énorme bénéfice pour eux. De toute façon, toutes les formes d'art, en fait, sont extrêmement vivifiantes pour les patients traumatisés.
Apaisantes aussi. Mm. C'est un sujet un peu plus léger. Il y a beaucoup de séries et de films autour du monde de la médecine, Grey's Anatomy, Urgence, etc. On ne va pas les citer.
Je vois lesquels vous regardez.
Non, mais c'est très très populaire. Et puis, enfin, disons que le film policier ou les séries policières ont laissé un peu de place aux séries liées au monde de la médecine, parce que ça fascine aussi. C'est réaliste ou pas ces séries ? Parce que la musique est toujours là, quoi. Il y a toujours une tension, vous avez une musique derrière. Non ?
C'est surjoué.
Tout est surjoué.
Non, c'est très surjoué. Après, c'est ça qui plaît. Et de toute façon, il y a une dimension commerciale addictive. Les gens aiment beaucoup aussi les émissions sur les meurtres, la médecine légale, les experts. C'est fascinant.
j'aurais pas digressé vers ça, mais d'accord. On va parler un peu d'improvisation. On passe une troisième partie de cette émission. Quelle part de création, de créativité vous avez, que ce soit dans les structures dans lesquelles vous travaillez, mais aussi vous en tant que médecin? Quelle est cette part d'invention, d'inventivité, d'improvisation qu'il peut y avoir dans votre métier?
C'est un métier qui laisse une très large part à la créativité. Alors, on peut inventer des techniques chirurgicales, on peut inventer des façons d'accoucher, on peut inventer plein de choses. Peut-être que moi, ce que j'aime le plus, c'est d'inventer des solutions. Et je pense, enfin ça me fait plaisir de le penser, que c'est lié à mes origines phéniciennes et au fait que je viens d'un monde où il faut sans arrêt se débrouiller, puisque rien n'est acquis, rien n'est sécurisé, que c'est un peu le foutoir permanent.
Tout est volatile.
Et puis, il n'y a pas tellement d'institutions d'État. Le Liban, aujourd'hui, est
y a pas
totalement
de long terme.
Implosé. Mais il n'y a pas de l'urbanisme, enfin tout est un peu en vrac. Et donc on a très tôt pris l'habitude d'inventer nos solutions. Et moi je suis très très heureuse quand j'arrive à inventer une solution à un problème organisationnel, un problème de n'importe quoi, de financement d'une activité, de création d'un lieu. Bon, je trouve ça fantastique.
Je me suis posé une question également sur la notion de création. Est-ce qu'il existe... Et sinon, est-ce que vous auriez eu l'idée ou est-ce que vous pensez que ce serait une bonne idée ? Est-ce que c'est nécessaire qu'un jour, il y ait quelque chose qui ressemble à cette maison des femmes pour les hommes ? Est-ce que, selon vous, une maison des hommes, ce serait quelque chose qui pourrait être nécessaire dans notre société ? Si oui, pourquoi ? Sinon, pourquoi ? Moi, je me suis renseigné sur un sujet qui me fascine, qui me fait peur depuis très très longtemps. C'est la notion du suicide, puisque je pense que vous le savez, il y a pratiquement trois fois plus d'hommes qui se suicident que de femmes en France. Il doit y avoir quand même quelque chose derrière ça. Une souffrance, en tout cas une forme d'urgence aussi. Comment vous l'expliquez ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi d'équivalent à ce qui a été créé pour les femmes qui pourrait exister pour les hommes ? Ou est-ce que vous pensez que la société d'aujourd'hui n'a pas forcément besoin de ça ?
Oh, que si. Je pense qu'il y a deux sortes de besoins pour les hommes. Il y a des hommes victimes de violences de la part de leur femme, ou même dans des couples homosexuels, il y a de la violence. La violence n'est pas l'apanage des couples hétéros et n'est pas l'apanage des hommes sur les femmes. Donc c'est un problème dont il faut s'occuper, ce d'autant que c'est extrêmement humiliant pour un homme, puisque dans notre imaginaire, un homme, ça se contient, un homme, ça n'a pas d'émotion, un homme, ça ne pleure pas, ça ne se plaint pas. Donc ça serait intéressant
d'ouvrir... Vous pensez que c'est encore vrai aujourd'hui ?
Mais bien sûr. On a encore beaucoup de... On n'est pas encore à zéro macho, hein. Ouais. On va y arriver, mais je ne sais pas quand. Donc, il faudrait aussi permettre aux hommes d'aborder ces questions de violence. Et puis, dans les violences sexuelles que vous évoquiez au début, il y a, chez les enfants, autant de petits garçons, sinon plus, que de petites filles. Sauf que les petits garçons parlent beaucoup moins, pour ces mêmes raisons. Donc, je pense qu'il faudrait une maison pour la parole des hommes et pour prendre soin des hommes victimes. Mais il faudrait aussi des maisons pour que les hommes puissent comprendre pourquoi ils sont dans un schéma violent, pourquoi est-ce que leur éducation les a conduits à une espèce de surestimation de l'importance de la virilité, du machisme, du patriarcat. Et ça, il faut commencer très tôt. C'est-à-dire que quand vous allez dans les classes, vous entendez ces discours dans la bouche de gamins qui ont 10 ans, 12 ans, et chez eux, c'est déjà très clair. L'homme est fort, il décide, il vit sa vie, il jouit de son corps, et la femme, c'est juste tout le contraire. Donc, on a vraiment besoin de lieux où éduquer et rééduquer les hommes. Et on a besoin de lieux où s'occuper des hommes qui sont déjà passés à l'acte. Parce qu'aujourd'hui, on leur propose principalement la prison. Mais la prison, ça ne guérit rien, ça ne répare rien. Vous sortez de prison, vous êtes encore plus énervé que quand vous y êtes entré. Donc, il faut absolument prendre en charge. C'est pareil pour tout, la délinquance, la violence, la radicalisation. Il faut qu'on sache comment prendre en charge ces problématiques de société essentielles.
Rada Atem Ganter, je vous entends parler et je me dis, mais c'est dingue, vous avez une douceur. Et quand vous parlez de choses absolument terribles, vous le dites avec une douceur incroyable. Je vous ai posé une question hier, quand on s'est parlé rapidement au téléphone. Je vous ai demandé si vous aviez déjà fait de la musique. Vous m'avez dit que vous aviez fait 30 ans de piano. 30 ans de piano, c'est vous êtes une grande pianiste.
Oh, pas du tout. non, j'avais des on and off, beaucoup.
Est-ce que la douceur, cette douceur dans votre voix vient de cette éducation musicale au piano? Je sais pas, c'est un peu cliché ce que je viens de dire en fait.
Peut-être.
C'est très macho là. Je devrais aller dans.
Non, il y a pire dans le machisme. Je sais pas, peut-être. D'abord parce que c'est aussi parce que je connais l'importance de la voix. Quand on parlait hier, je vous ai parlé de mon professeur de piano, qui était un fervent amateur de voix, le feu Henri Gorayeb, et très vite j'ai compris que la voix était un instrument. Et c'est pareil avec les patients, c'est-à-dire que quand vous voulez apaiser un patient, ben vous savez très bien qu'il faut descendre dans l'intensité.
C'est la voix, mais ça c'est ça la musicothérapie chez vous en fait, c'est votre voix qui chante...
Non mais c'est vrai que c'est extrêmement important, c'est-à-dire que
hein, Robin McElpin... C'est peut-être très relaxante quand on vous entend pas. Je pense que tous les auditeurs de TSF Jazz là tout de suite qui nous
Sont tous endormis là.
Non, et à mon avis, ils sont apaisés par vos paroles qui sont à la fois des paroles très sérieuses et qui parlent de choses extrêmement difficiles, mais vous arrivez à faire passer ça avec une douceur incroyable. Donc oui, pardon, je vous ai interrompu. Vous voyez, ça c'est macho aussi, ça.
Mais
capable d'interrompre.
Ça c'est vrai.
Voilà. Bon, alors...
Non mais c'est important, la voix est un instrument et la voix est un outil aussi, parce que quand vous avez un patient, une patiente, pour ce qui me concerne, extrêmement agitée, extrêmement angoissée, très saccadée, et quand vous vous mettez à parler comme ça, très doucement, très calmement, ben vous l'emportez.
Et on l'oblige à respirer aussi peut-être,
ouais,
hein,
bien sûr.
Je vous ai recoupé, vous avez vu, je suis terrible.
Terrible.
Qu'est-ce que je peux faire ?
Un mec à l'ancienne.
On a parlé un peu de musique parce que voilà, j'ai envie de revenir vers la musique maintenant. Et c'est ce moment-là. C'est difficile de dire ça, mais à chaque fois, on arrive trop vite à la fin de cette émission. J'ai tellement de choses que je voudrais encore partager avec vous, Rada Atem Ganter. On ne pourra pas parler de tout, évidemment. Et maintenant, surtout, c'est le moment où on est censé faire cette création.
Oui.
Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire la transition avec
là, j'ai le track.
Là, vous avez le track, c'est ça. Vous avez plus le track que lorsque vous opérez.
Oui, jusqu'à une césarienne, c'est clair.
Donc, je l'ai dit, vous avez fait de nombreuses années du piano. Jusqu'à maintenant, tous nos invités ont improvisé quelque chose sur le micro. On a eu quelqu'un qui a improvisé quelque chose sur la table aussi. Mais parce que vous êtes pianiste, j'aimerais vous proposer que... Alors voilà, j'explique à nos auditeurs ce qui va se passer, parce que là, il y a beaucoup de gens qui peut-être nous écoutent et savent pas ce qui va se passer. Il se passe un truc dans cette émission depuis le début de l'année. Donc cette émission s'appelle Improbox. Je vous le rappelle, vous êtes en direct sur TSF Jazz. Et nos invités, donc on a un invité plateau, une invitée plateau. Ce soir, c'est la gynécologue obstétricienne et militante engagée pour les femmes, Madame Rada Atem Ganzer. Et puis nous avons une invitée musique, plateau musique, qui est la fabuleuse Robin McKell, qui est accompagnée par un guitariste tout aussi sublime, Monsieur Hugo Lippi. Et l'idée, c'est que ces invités se croisent sur une création, et c'est là, c'était le cas chaque mois depuis le début de cette année. Ce soir, c'est la dernière. Et donc, l'idée, c'est que vous, invité plateau, qui n'êtes pas musicienne de métier, mais je sens qu'on peut arriver à quelque chose de magnifique, puisque vous êtes musicienne depuis très longtemps, nous proposiez une idée complètement improvisée pour cette fin d'émission, comme une idée qui vous sorte par la tête, mais vraiment improvisée. Vous trichez pas, vous essayez pas de vous rappeler de quelque chose que vous auriez déjà joué. Vous inventez quelque chose, ça peut être 3 notes, 4 notes, 5 notes, une petite mini-mélodie ou juste un rythme, un gimmick, peu importe ce que c'est. Et puis nos invités musique vont prendre cette idée, ils auront 1 ou 2 minutes pour réfléchir un peu à ce qu'ils peuvent faire autour de ça. Et juste après, ils enchaîneront sur une improvisation. Pareil, tout en direct, en live, et rien n'a été préparé auparavant. Voilà, j'ai réexpliqué un peu pour que nos auditeurs puissent savoir. Alors, est-ce que vous êtes d'accord de vous diriger vers le piano?
Je veux bien me diriger, mais je ne vais pas improviser.
On va voir. C'est en train de se passer en direct. Rada Atem Ganzer se dirige vers le piano, se met à genoux sur le tabouret du piano.
Et voilà. Mais il y a 3 notes.
Bah, comme vous voulez. Allez, on écoute.
Vous êtes prêts?
Voilà, ça c'est l'idée. Voilà, ça c'est l'idée de départ. Et on va partir. On vous donne 1 ou 2 petites minutes comme ça, juste pour vous préparer psychologiquement. Et c'est parti.
Improbox.
Et en réalité, la vie, c'est improvisation.
Le B.A.B.A. d'I.B.
Puisque l'inattendu nous attend toujours, inévitablement, le long du chemin.
Ibrahim Maalouf sur TSF Jazz.
Et maintenant, voilà, comme promis, cette improvisation, Hugo Lippi à la guitare, Robin McKell, c'est à vous.
Sometimes we don't know all the answers. things in life. So open up your mind and open up your heart and open up your soul. We can find a way to go. We can find a way together. Just open up your mind and soul. You and I, and we together can be. We can be.
Magnifique, magnifique Hugo Lippi à la guitare et Robin McKell. Improvisation totale. C'était la dernière de l'année et merci pour ce moment merveilleux.
Merci pour cette leçon.
Rada Mertem Ganzer, je vous conseille d'aller tout de suite à la SACEM inscrire ça parce que ça, c'est un futur titre, c'est un futur classique. Moi, j'en sais rien. C'est incroyable. Vous devriez vous retrouver dans une résidence tous les trois et faire un album comme ça. Voilà, moi je vous propose.
Je signe tout de suite.
Bravo. Robin McKell.
Aussi bien les sujets que la voix, que votre accompagnement. Merci.
Merci beaucoup.
Très beau cadeau que tu m'as fait.
Robin McKell, vous serez en concert d'ailleurs à Juan-les-Pins le 12 juillet, New Morning à Paris le 21 juillet et à Jazz in Marciac le 24 juillet, entre autres. Et puis vous sortez le 17 juin un nouveau single, How Do I Let a Good Man Down. Pas mal par rapport à la transition.
Tout sur un programme. Et après celui-là qu'elle appellera Solution.
Solution, voilà, ça sera la solution. Merci à vous tous en tout cas. Merci Rada d'avoir été avec nous également.
Merci.
Voilà.
Tu as un très beau t-shirt. je n'osais pas te le dire.
Alors j'ai mis le t-shirt que Rada Atem Ganzer m'a offert. Alors, c'est quoi le bal des sorcières?
C'est une fête qu'on devait faire pour lever de l'argent, qu'on n'a pas fait.
Pour la maison des femmes.
Bien sûr, toujours.
Bon, ben voilà, on finira avec donc, la maison des femmes. Merci à vous. On a commencé cette aventure au début de l'année. Et puis nous avons eu de la chance de croiser des personnalités aussi diverses et talentueuses que le journaliste Hugo Clément et le pianiste Alfio Origlio qui se sont croisés. D'autres se sont croisés comme ça, l'écrivain Maxime Chattam et la contrebassiste Nesrine, la philosophe Marie Robert et le duo Slide Johnson-Laurent Coulondre, Jean-Claude Casatsu avec Florine Nicolescu, Stéphane De Groot avec le trio Abraham Réunion, Augustin Trapnard et le guitariste Samuel Strouk, l'académicien Rick Orsena et le vibraphoniste Nicolas Thomas. Le mois dernier, c'était l'humoriste Haroun et face à lui, le batteur Mathieu Chazarin qui nous ont régalé. Puis aujourd'hui, voilà, c'était la dernière avec vous, la dernière de l'année, me dit-on, dans l'oreillette, avec Rada Atem Ganzer et puis Robin McKell, Hugo Lippi. Alors on croise les doigts, qui sait si cette aventure va se prolonger, j'espère. Si vous avez aimé, en tout cas, sachez que pour moi, ça a été une véritable aventure humaine, telle que j'ai toujours d'ailleurs aimé les vivre. Et c'est donc non sans émotion que je vous souhaite je souhaite dire en tout cas un grand merci à toute l'équipe de TSF que j'aime de plus en plus, à force de vous connaître de mieux en mieux. Donc Sarah Benamou à la communication, Adrien Belcout, Samira Chaban à la vidéo, Eric Holstein, Maxime Van Der Beek au son, sans qui cette émission, évidemment, n'aura certainement pas la même gueule et n'auraient pas la même gueule. Et puis évidemment, il y a deux gars complètement starbés qui ont eu, se sont dit un jour, après avoir peut-être, je le soupçonne en tout cas, un peu bu, un peu trop bu, et si on demandait à un mec qui n'a jamais fait de radio d'animer une émission de radio, il n'a jamais fait ça de sa vie, a priori il ne sait pas faire grand chose d'autre que souffler dans un tube en cuivre, et on va lui donner, tiens, une mensuelle en direct pendant une heure. Bon bah voilà, c'est dingo, c'est Sébastien Vidal et Bruno Delport que je remercie très chaleureusement. Et puis voilà, les magiciens qui m'entourent à chaque émission, Jean-Charles Doucan à la réalisation et qui m'accompagne vraiment avec beaucoup de bienveillance, c'est rare. Et puis Pia Duvigneau, sorte de fée qui concrétise absolument tous mes rêves d'invité. C'est pour ça que vous êtes là aussi ce soir. J'en profite pour vous dire que toutes les improbox de l'année sont disponibles sur le site de TSF Jazz, en podcast également sur le site et sur l'application de TSF Jazz. Et puis voilà, je vous laisse avec ce titre de Dizzy Gillespie qui nous a accompagnés toute l'année par le GRP Big Band, c'est Manteca. Merci à tous les auditeurs de m'avoir accompagné également toute cette année. Et puis qui sait, peut-être à l'année prochaine, je vous souhaite un bel été, plein de festivals, des concerts, du live et puis une belle fin de soirée à tous sur TSF Jazz. Merci.